7h44 à Paris, RFI Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à suivre un nouveau journal international dans un peu moins d'un quart d'heure à la une. Le Proche-Orient et cette vaste opération menée par Israël en Cisjordanie occupée qui continue. Nous appellerons nos envoyés spéciaux en Israël. D'abord, à suivre notre grand invité Afrique dans 5 minutes, Richard Randjiamandrat, ancien ministre malgache des Affaires étrangères et candidat pour succéder à Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier, mais d'abord la presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le risque d'embrasement dans l'est de la RDC.
C'est une caricature publiée sur le site d'information congolais Actualité CD. On y voit un journaliste brandissant un micro devant un parterre d'hommes politiques et de représentants de la société civile à Kinshasa. Le journaliste les interpelle. Leader d'opinion, un petit commentaire sur la révision ou changement de la constitution. Tous les officiels veulent répondre en s'arrachant le micro. « Moi, crie-t-il. » Et puis, question suivante, un commentaire sur la guerre qui a atteint Goma. Et là, plus personne. Les officiels sont partis en courant. Et en effet, c'est la retenue, la prudence qui domine en ce moment à Kinshasa face à l'avancée des rebelles du M23 dans le Kivu. Les termes sont choisis. Les médias congolais, à l'instar du site 7 sur 7, parlent d'incursion rwandaise à Goma ou encore de guerre d'agression.
Il faut dire que la situation est délicate. Le risque d'une extension du conflit est bien présent.
C'est ce que souligne notamment le pays à Ouagadougou après le secrétaire général des Nations Unies ce week-end qui disait craindre un embrasement régional du conflit en cours dans le Kivu avec l'ouverture possible de nouveaux théâtres de confrontation. C'est au tour du président du Burundi d'affirmer que la propension à l'extension transfrontalière de cette guerre est particulièrement grande du fait de la situation volatile et explosive enregistrée la semaine dernière dans les deux extrémités du Kivu. Et en effet, résume Jeune Afrique, le président burundais Evariste Ndayishimiye a dit redouter que le conflit en RDC déclenche une guerre régionale. Si ça continue comme ça, a-t-il déclaré, la guerre risque de se généraliser dans la région.
Mais alors la guerre, dans quel but? Quels sont les objectifs du M23?
Le Monde Afrique brosse un long portrait aujourd'hui du chef militaire de la rébellion, Sultani Makenga. C'est un Tutsi dont une partie de la famille est originaire de la province du Masisi. Ce général discret a fait ses armes à l'ombre du président rwandais, Paul Kagame, et a pris part à toutes les insurrections qui secouent l'est de la RDC depuis 30 ans. Dans l'une de ses rares interviews, il y a 2 ans, il déclarait, relève le Monde Afrique, nous avons choisi ce chemin parce que tout le reste a échoué. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient que le pays leur appartient. Et le Monde Afrique de s'interroger, est-il un va-t-en-guerre piloté par Kigali et Kampala, un stratège militaire qui a su jouer un rôle dans toutes les rébellions congolaises, un opposant politique animé par la protection de sa communauté? Peut-être, répond le journal, peut-être un peu de tout cela à la fois. Le quotidien aujourd'hui au Burkina s'intéresse, lui, à Corneille Nanga, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, allié au M23. Personne n'aurait parié en 2015, lorsque Corneille Nanga, président de la CENI congolaise, proclamait les résultats des élections générales, qu'une dizaine d'années plus tard, il se transformerait en rebelle pour fonder l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Félix Tshisekedi, mais à l'évidence, pointe le journal, une brouille devenue rancune tenace est née entre les deux hommes. En tout cas, allié au M23, Corneille Nanga ne fait pas mystère de vouloir faire tomber Félix Tshisekedi.
Pour le chercheur Thierry Vircoulon, interrogé par Africa Arabia, site spécialisé sur la RDC, Paul Kagame semble dans un moment poutinien.
Oui, le but immédiat du M23, piloté par Kigali, est de forcer le gouvernement congolais à négocier. Mais une négociation pourquoi? Certainement pas pour que le M23 puisse réintégrer l'armée congolaise, comme cela avait été le cas après la crise de 2008, affirme Thierry Vircoulon. Non, une négociation entre le gouvernement congolais et le M23 viserait à conférer à ce mouvement armé le contrôle territorial d'une partie du Nord Kivu à minima. Cela permettrait, précise le chercheur, l'officialisation des gains territoriaux du M23 depuis 2022. Et cela équivaudrait à une annexion officieuse par le Rwanda. Le Nord Kivu, ou en tout cas une partie de cette province, deviendrait ainsi un Donbass rwandais. Et, souligne encore Thierry Vircoulon, le renversement de Félix Tshisekedi n'est pas exclu dans cette stratégie si celui-ci continue à s'opposer à cette volonté d'annexion. Pour ce faire, Kigali semble avoir ressorti des poubelles de l'histoire, la vieille stratégie du paravent politique congolais, l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, et le nouvel avatar du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le RCD, qui avait pris les armes contre Laurent Désiré Kabila à la fin des années 90.
Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'actualité de ce lundi, c'est d'abord la RDC, alors que de violents affrontements se tiennent toujours dans l'est du pays. Le M23, soutenu par le Rwanda, à l'offensive, des combats autour de Goma, mais aussi non loin de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. C'est d'ailleurs non loin de Bukavu qu'un officier de l'armée congolaise est mort ce samedi, le colonel Rugabisha, qui selon l'armée est mort après des affrontements au niveau de la localité de Niabiboué. La RDC, où la mission des Nations Unies évacue de Kinshasa les familles du personnel de la MONUSCO. Décision annoncée hier avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. Israël affirme avoir mené ce dimanche une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée et affirme avoir tué depuis le 14 janvier ce que l'armée de l'État hébreu présente comme 50 terroristes. Le premier ministre israélien, lui, est arrivé à Washington hier avant de rencontrer Donald Trump. Demain, mardi, Benjamin Netanyahou doit s'entretenir aujourd'hui avec l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Donald Trump qui a prévu de discuter aujourd'hui avec les dirigeants canadiens et mexicains, les deux pays qui ont déjà déclaré qu'ils contesteraient les nouveaux droits de douane américains devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, menace le Panama de mesures en l'absence de changements immédiats sur le canal de Panama. Mais le président panaméen a lui proposé des discussions techniques aux États-Unis et dit ne pas croire à une intervention militaire. Le jour de son investiture, Donald Trump a dit vouloir reprendre le contrôle de ce carrefour maritime commercial stratégique et ainsi contrer l'influence de la Chine. Et puis un mot des Grammy Awards, c'était cette nuit aux États-Unis, Beyoncé et son disque Cowboy Carter, sacré album de l'année. Et puis les Français de Gojira, ainsi que la chanteuse lyrique Marina Viotti, récompensés pour leur prestation à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Dans un peu moins de 2 semaines, le 15 février prochain, lors du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, les chefs d'État de l'instance doivent élire le nouveau président de la commission de l'UA. 3 candidats briguent la succession du Tchadien Moussa Faki Mahamat, l'ancien premier ministre kényan Raila Odinga, l'actuel ministre djiboutien des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères Richard Rangia Mandra. RFI vous propose d'ici là d'entendre chacun des candidats. Et aujourd'hui, place à Richard Rangiamandrat. Je ne suis pas un candidat de salon, dit-il, lors de cet entretien avec Christophe Beaubouvier.
Richard Rangiamandrat, bonjour.
Oui, bonjour.
Si vous êtes élu le 15 février prochain, quelles seront vos 2 priorités ?
Tout d'abord, il faut de manière urgente mener à terme ces réformes qui ont été entamées depuis 2016 avec des propositions parfois douloureuses, mais il faut passer par ça pour que l'Union africaine, pas seulement la Commission, mais tous les organes de l'Union africaine soient moins bureaucratiques, plus efficaces, moins de réunionnites et surtout un état d'esprit de cohésion entre les organes. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment faire mieux avec moins. Maintenant, le budget de l'Union africaine a été réduit. Donc, il va falloir faire avec. Et donc, je me propose de mettre en place un plan stratégique pour 3 à 4 ans. Et j'espère que les instances dirigeantes de l'Union africaine vont adopter cette démarche.
Quand la guerre fait rage en Afrique, comme en ce moment dans l'est du Congo-Kinshasa, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'en occupe et pas le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Est-ce que vous ne le regrettez pas ?
De prime abord, on peut dire que les crises sur tous les continents devraient revenir évidemment à des instances continentales telles que l'Union africaine ou le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Tout cela est possible, mais voyez-vous, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut le reconnaître, c'est l'instance planétaire qui résout les problèmes de cette envergure. Donc, je ne m'en offusque pas pour autant. Je pense que l'Union africaine doit être présente dans les prises de décision au niveau du Conseil de sécurité. J'espère que l'Union africaine ne soit pas écartée de la résolution de la crise dans l'immédiat.
Dans la guerre au Nord Kivu, tout le monde désigne le Rwanda comme complice, sauf l'Union africaine et les 3 pays qui représentent l'Afrique à l'ONU. Pourquoi cette retenue ?
Disons que l'Union africaine est la maison commune qui rassemble tous les États membres de cette union. Je pense que l'Union africaine se doit de rester solidaire aussi bien avec les versions et les arguments avancés par Kigali, autant que les arguments défendus par Kinshasa. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice qui doit être exécuté afin de garder la solidarité entre les pays africains. Et donc, il faut vraiment que ce processus de Nairobi et aussi le processus de Luanda aboutissent à des accords qui rassurent les uns et les autres.
Face à vous, Richard Ranjamandrat, il y a deux candidats, le Kenyan Raila Odinga et le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Qu'est-ce qui vous distingue de ces deux autres candidats ?
Je pense que le fait de ne pas être un chef de parti politique est un avantage. Je ne prétends pas avoir une vingtaine d'années à faire de la diplomatie caméléon, à écrire des notes verbales et à faire des discours ici et là. Non, je suis un homme de terrain. J'ai beaucoup travaillé dans les ONG, au COMESA, qui est une organisation régionale dans l'Afrique de l'Est. J'ai travaillé pour les Nations Unies au sein du PNUD et la Banque mondiale. Et puis j'ai été ministre de l'économie et des finances. J'ai négocié beaucoup de financement de projets pour mon pays. Donc je ne suis pas un candidat de salon et je pense que c'est un avantage. Et puis je ne cherche pas à être le lion qui va rugir dans la jungle. C'est ce que j'ai entendu d'un de mes concurrents. Je veux rester un candidat réaliste, un candidat pragmatique et je pense que je peux répondre aux attentes de notre organisation.
Alors le lion qui va rugir dans la jungle, c'est l'ancien Premier ministre kényan, Raila Odinga, qui est favori dans cette bataille parce qu'il a été Premier ministre justement et parce qu'il est soutenu par un pays influent, le Kenya. Qu'est-ce que vous répondez ?
Tout le monde est favori jusqu'au jour du vote, Monsieur Boisbouvier. Quelle serait donc l'image que l'Union africaine va projeter à la communauté internationale ? Est-ce que c'est une Union africaine de plus en plus politisée, plus orientée vers les combats politiques ? Est-ce une Afrique qui est plus orientée vers l'économie, l'éducation des jeunes, et ainsi de suite? C'est ce que je veux incarner d'ailleurs. Je veux mettre en place une architecture économique et financière avec la Banque africaine de développement et les institutions. C'est ce que je sais faire. J'ai été ministre de l'économie et des finances et je sais comment négocier avec ces instances de la finance internationale. Et c'est ce qui est important.
Richard Ranjamandrat, je vous remercie.
L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, pour commencer cette semaine, vous nous dites qu'au Gondwana, à chaque jour ne suffit pas sa peine, il y a du nouveau tout le temps.
Oui, on ne s'ennuie jamais en République très très démocratique du Gondwana. Il n'y a jamais une seconde perdue, jamais une seconde sans rebondissement ou nouveauté tombée d'un ciel pourtant clair et limpide. La très très démocratique République fait toujours ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire être la très très démocratique République. Number one dans la sémantique politique, numéro uno dans l'innovation à la une de l'actualité. Aujourd'hui, notre belle République nous fait cadeau d'une phrase à nul autre pareil, une phrase qui, d'un coup un seul, a fait son nom. Entrer dans le who's ou des phrases gondouanaisement incroyables, deux points ouvrez les guillemets, les autorités sont parties, il ne reste plus que la population. Fermez les guillemets. Oui, tu as bien entendu, cher auditeur, les autorités sont parties, il ne reste plus que la population. C'est un citoyen gondouanais qui parle comme ça devant l'accumulation des galères auxquelles il doit faire face là, dans son coin perdu de la très très démocratique république. Les autorités sont parties, on est tout seul ici. Mais c'est la devise de ce singulier pays au nom si atypique, la très très démocratique république. Une devise qui a toujours été le pain quotidien du gondouanais lambda où qu'il se trouve dans ce pays. Les autorités sont parties, ne reste plus que la population, mais le Gondwanais lambda a toujours eu la nette impression que les autorités ont été parties depuis le jour 1 où qu'ils se trouvent au Gondwana. Elles sont parties se reposer là-haut dans les étages supérieurs et climatisés des bâtiments ministériels ou du palais présidentiel, loin des en bas, loin des délestages, loin des trous dans les routes, loin des écoles et des dispensaires tétraplégiques, loin des ventres à remplir et des loyers à payer. Elles sont parties là-haut dans les moelleux et larges sièges de la business class, direction Paris, Londres ou Dubaï, loin des en bas. Dans la très très démocratique république, les autorités sont parties parce qu'elles n'ont jamais été là. Bah oui, quand tu es au fin fond du pays, mais elles sont tellement parties que t'as l'impression d'être le premier homme sur la lune. Pas d'âmes qui vivent, pas de routes, pas de lignes électriques, pas de services publics, rien, niente. Les gens n'ont qu'à se débrouiller parce que les autorités sont parties. Au Gondwana, dès que tu quittes Gondwana City, notre belle capitale, c'est comme si tu sortais du territoire national, il n'y a plus rien. Dès que tu quittes Gondwana City, notre belle capitale, tu entres dans un autre pays tout en restant au Gondwana. Les autorités sont parties, elles sont toutes rentrées à la capitale. Mais calme-toi, tu les reverras très très vite, très très bientôt, dès que les élections pointeront le bout du nez. À demain.
À demain, Maman. RFI, vous restez avec nous dans une petite minute, le journal.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.